Le monde d'Ulysse avec Kevin Gilbert sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous et bienvenue dans Le monde d'Ulysse, votre émission consacrée à l'histoire grecque. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un phénomène qui a touché tout le monde grec, il s'agit donc de la religion. La religion dans le monde grec a quelque chose de fédérateur, c'est un élément d'unité du monde grec. Nous l'avons vu dans les émissions précédentes, les Grecs ne sont pas unifiés par la politique, par leur langue, mais la religion va vraiment avoir quelque chose qui va unir ce monde grec. Donc c'est une religion qui est polythéiste, où le caractère, le rôle de chaque dieu reste parfois assez ambigu. La religion grecque, c'est pas une religion du livre, comme nous le connaissons certaines religions du livre, notamment la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane. La religion grecque, c'est donc une religion qui n'a pas de dogme, qui n'a pas de hiérarchie bien précise, mais qui va quand même s'interroger sur ce qu'elle est, elle va quand même essayer de s'interroger sur sa propre complexité. Les Grecs vont se demander pourquoi fait-on ça au final dans notre religion, et ils vont rédiger ce qu'on appelle des aitiai. Ce sont des récits qui vont expliquer les causes. Donc pour parler rapidement des dieux, les dieux mêmes sont ambigus, donc ils ont tous une forme humaine, et ils ont ce qu'on appelle des épiclèses. Des épiclèses, c'est-à-dire des adjectifs qui vont qualifier leur fonction. Alors certes, on pense toujours à Zeus, divinité de la foudre, Apollon, divinité des arts, Athéna, divinité de la guerre, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on prend l'exemple juste d'Apollon, qui est peut-être une des divinités les plus complexes du monde et du panthéon grec, Apollon, c'est à la fois celui qui soigne, et dans ce cas-là, on l'appelle Épicurios, mais c'est aussi celui qui va déclencher les maladies, comme il le fait au début donc, de l'Iliade, face aux troupes grecques amassées devant la ville de Troie. C'est aussi le dieu des bergers qui va protéger les troupeaux, mais c'est aussi le dieu des loups qui va mettre en colère les prédateurs et attaquer ses proies faciles. Enfin, tout ça pour vous montrer que chaque divinité a une fonction propre, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut aussi parler de l'exemple de Poséidon. Poséidon, c'est le dieu de la mer, mais c'est aussi le dieu des tremblements de terre, le dieu du cheval, etc. etc. La liste est bien longue. Nous allons nous intéresser plus précisément aujourd'hui au sanctuaire. Donc le sanctuaire, c'est l'expression même de la religion, c'est ce qui fait le lien entre l'homme et le dieu. Donc le sanctuaire, il est désigné par le terme grec de hieron. Et hieron donc, ne désigne rien de plus, rien de moins qu'un lieu consacré à une divinité. Donc ce lieu particulier n'est pas choisi par les hommes. Donc ce ne sont pas les hommes qui vont décider en quelque sorte de la fondation, mais on considère que c'est la divinité elle-même. Donc cette divinité va marquer sa présence de ce lieu, donc à travers une particularité. Ça peut être un bois sacré, comme on le trouve à Olympie, un site de hauteur, un croisement de route terrestre ou maritime, un cours d'eau, ou parfois même un rocher. Si on prend l'exemple de l'acropole d'Athènes, où Poséidon, dans l'Érechtheion, a marqué de son trident une pierre, lors de son duel avec Athéna, pour le contrôle de la ville. Donc l'espace sacré du sanctuaire est délimité dans l'espace, d'accord ? Physiquement, on a une limite entre le monde profane et le monde sacré. Et cette limite, on l'appelle le téménos. Donc dès le début de l'époque archaïque, qu'on appelle le géométrique récent, donc entre les années 770-700 avant Jésus-Christ. Donc d'après les poèmes homériques, hein, et c'était confirmé par l'archéologie, cet enclos sacré avait des dimensions modestes et ne refermait très certainement à la base qu'un hôtel. Mais peu à peu, d'autres bâtiments vinrent s'injoindre à l'hôtel, un temple le plus souvent, marquant le plus possible, hein, en quête de monumentalité dans ce sanctuaire. Effectivement, puisque le sanctuaire va aussi être le reflet du prestige de la cité qui l'accueille. Une autre caractéristique essentielle des sanctuaires grecs est l'absence de tombes, excepté les héroons, c'est-à-dire les tombes des héros. Effectivement, dans certaines tombes mycéniennes, donc des tombes qui datent de l'époque glorieuse de Mycène, bien avant l'histoire qui nous intéresse. Il était également interdit de porter des armes dans les sanctuaires, d'y avoir des relations charnelles et d'y naître. C'est donc un espace qui est vraiment dédié, tourné vers le monde du divin. La séparation entre l'espace sacré et l'habitat n'a été que lentement définie. Effectivement, on pense que donc les sanctuaires caractéristiques, c'est-à-dire possédant un autel et un temple, se sont étendus aux dépens de l'habitat. L'exemple le plus parlant, c'est très certainement le cas de Delphes, hein, où à Delphes, par exemple, le sanctuaire d'Apollon s'est installé peu à peu à la fin du 9e siècle avant Jésus-Christ, sur une petite agglomération, et a petit à petit grignoté les habitations autour. Et ça, on le sait parce qu'on a l'archéologie qui nous l'a révélé, une extension de ce téménos, donc de cette enceinte sacrée qui délimitait le profane du sacré, et qui, au fil du temps, va, notamment en deux phases, grignoter les habitations. Les sanctuaires ont également conservé des traces d'activités artisanales liées au culte, ainsi qu'au chantier de construction des bâtiments du sanctuaire, comme par exemple l'atelier de Phidias à Olympie, donc Phidias, le célèbre sculpteur de l'Antiquité, spécialisé dans les statues dites chryséléphantines, c'est-à-dire faites d'or et d'ivoire. Donc les exemples de Phidias, malheureusement, ne nous sont pas parvenus, mais on sait qu'il a sculpté notamment le Zeus d'Olympie, donc une statue monumentale faite d'or et d'ivoire, ainsi que l'Athéna Parthénos, donc l'Athéna qui siégeait dans l'espace du Parthénon, d'Athènes. Aux époques géométriques et archaïques, donc dans la haute antiquité grecque, on retrouve notamment des ateliers métallurgiques, comme dans la ville d'Érétrie, qui se situe, souvenez-vous, sur l'île de Bé. Donc on a donc toute une série de petites activités annexes, donc liées au culte, souvent au travail des exotos, à proximité de ces sanctuaires. Un sanctuaire grec se caractérise donc non pas par son temple, mais par son autel, ainsi que par les autres bâtiments et installations qu'il compose. Un sanctuaire, c'est donc un espace qui est délimité dans l'espace, parfois par une structure qu'on appelle le téménos. Et donc, ce qu'il faut vraiment retenir d'ici, c'est que certes, le temple, c'est un élément important, mais pas essentiel, puisque le rôle du sanctuaire, c'est souvent de fédérer la population autour de la divinité, puisque le rôle du sanctuaire, notamment, comme on va le voir tout de suite, pour les sanctuaires urbains, ça va être un rôle fédérateur, un marqueur de la citoyenneté grecque. Et dans le temple, tout le monde ne peut pas y pénétrer, seul le personnel liturgique, c'est-à-dire les prêtres, qui ont la tâche d'habiller notamment la statue de culte, vont pouvoir y pénétrer. Donc c'est vraiment autour de l'autel, là où va se dérouler le sacrifice, donc le partage de l'animal entre le monde des vivants et le monde sacré. Il faut donc faire une différenciation de ces sanctuaires. On a donc les sanctuaires urbains, les sanctuaires qui se situent au cœur de la ville, les sanctuaires périurbains, ceux qui sont situés à la limite, en bordure de cette ville, on pourrait dire en banlieue en quelque sorte, et les sanctuaires extra-urbains, donc les sanctuaires en quelque sorte des confins. Donc en effet, même lorsqu'une cité n'est pas encore implantée et organisée donc en polis, en cité, ces trois types de sanctuaires sont déjà présents, et ça dès les plus hautes époques de l'histoire grecque, dès le 8e siècle. Donc au sein de cette polis, de cette cité, le sanctuaire a un rôle politique, un rôle fédérateur auprès des citoyens, et leur permet d'acquérir en quelque sorte le sens de la communauté. Donc tout ceci est lié par la divinité Polyade. Donc la divinité Polyade, par exemple, pour prendre le cas d'Athènes, où la divinité Polyade est bien évidemment Athéna, la divinité protectrice de la cité. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on a une divinité Polyade, qu'on n'honore pas d'autres dieux. En effet, pour ceux qui ont la chance d'aller à Athènes, eh bien sur l'Agora sont présents notamment le sanctuaire et le petit temple dédié à Héphaïstos, le dieu des forgerons et des arts du feu. Hors de la ville, lorsqu'on s'éloigne un petit peu, le sanctuaire devient un marqueur de la puissance de la cité qu'il contrôle. Donc à travers la Cora, donc la campagne, est donc placé aux confins de cet espace civique et de cette campagne. Donc là, il joue vraiment le rôle de marqueur de territoire, le rôle souvent en quelque sorte de frontière. Donc en résumé, il existe une typologie du sanctuaire, donc en fonction de sa localisation dans le territoire, et cela dès les très hautes époques. Et bien souvent, on a une filiation en fonction de la localisation du sanctuaire. Donc, pour les sanctuaires donc vraiment urbains, on aura vraiment des divinités liées à, dites de quelque sorte, de la civilisation, des divinités typiquement grecques. Donc là, je pense notamment à Athéna et à Apollon. Alors que dans les sanctuaires les plus éloignés, on aura par exemple des sanctuaires plutôt dédiés à Artémis, Donc une divinité chasseresse, donc la sœur jumelle d'Apollon, divinité du monde sauvage. Donc il faut bien aussi souligner que l'autel prime toujours hein, sur le temple, et le temple qui est en quelque sorte un moyen de monumentaliser le sanctuaire, et aussi marque la prospérité de la cité. C'est en quelque sorte une vitrine de la cité, le temple. Donc concernant l'archéologie des espaces sacrés, donc, trois critères sont à prendre en compte. Donc le sanctuaire en lui-même, les limites de ce sanctuaire, ainsi que l'équipement de ce sanctuaire. Donc comme je viens de l'expliquer précédemment, le sanctuaire grec est indissociable du paysage. Donc comme une grotte, un point reculé ou culminant, comme notamment les acropoles. C'est le cas d'Athènes, mais c'est le cas de bien d'autres cités, notamment celle de Corinthe. La végétation joue également un rôle important dans l'organisation et le développement des sanctuaires et de certaines divinités, comme Athéna, Zeus ou Apollon, liés respectivement donc à l'olivier pour Athéna, le chêne pour Zeus et le laurier pour Apollon. Donc là on parle d'alsos, c'est-à-dire de bois sacré. Ils sont difficiles à reconnaître et à localiser dans les sources, à la différence de certains puits ou de petits lieux aquatiques, notamment des sources naturelles, qui sont indispensables pour la liturgie et les besoins des pèlerins qui vont visiter les sanctuaires. Donc il faut bien aussi comprendre que le végétal va jouer un rôle important. Si on prend l'exemple des sanctuaires de Zeus, on pense notamment à celui de Dodone, donc sanctuaire situé dans le nord de la Grèce, près des météores. Là, le chêne joue un rôle important puisque les prêtres de ce sanctuaire interprétaient les messages de Zeus en fonction du vent qui soufflait dans le bois sacré et qui soufflait à travers les chênes. Concernant les limites du sanctuaire, donc l'archéologie permet de mettre à jour certaines d'entre elles, comme notamment le péribole, donc, qui peut prendre la forme d'un mur de pierre ou de brique, ce qui marque la partie du territoire qui est réservée aux dieux. Donc souvenez-vous, le péribole, c'est le marqueur du téménos, donc de l'espace sacré. Donc un autre marqueur géographique entre le monde sacré et le monde profane peut également être révélé par l'archéologie. Il s'agit de ce qu'on appelle des périanteria. Ce sont donc des vasques de pierre remplis d'eau rituelle qui étaient placés aux entrées des sanctuaires, marquant, tout comme le péribole, la limite de l'espace sacré. On pourrait assimiler ça en quelque sorte à des bénitiers. Des stèles étaient également placées à l'entrée du sanctuaire, donc ce sont donc des documents épigraphiques hein, qu'on appelle des lois sacrées, et qui exposaient aux pèlerins les règles à suivre au moment de pénétrer dans le sanctuaire, ainsi que les réprimandes encourues dans le cas où un pèlerin commettait un délit ou une infraction à l'intérieur de l'espace consacré à la divinité. Bien que le but premier de ces stèles ne soit pas de délimiter l'espace sacré, elles nous indiquent tout de même ses limites. Il faut donc bien avoir à l'esprit que matérialiser ou non la limite de l'espace sacré, bah c'est primordial dans le sanctuaire qui est vraiment exclusivement tourné vers le divin, et que la limite entre le sacré et profane devient fortement marquée bah, dès la fin de l'époque archaïque. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, vous écoutez Le Monde d'Ulysse, où nous parlons ici de la religion grecque et plus précisément du sanctuaire et de son importance dans le monde grec. Nous évoquons ici l'équipement de ce sanctuaire, et qui est également un révélateur, aussi bien d'un point de vue de sa taille et de l'importance de celui-ci, mais il révèle également des informations sur la liturgie du sanctuaire. En effet, les bâtiments, donc outre le temple et l'autel qu'on a déjà évoqué précédemment, le sanctuaire abrite également des bâtiments comme des fontaines, des portiques, comme par exemple les propylées d'Athènes, ainsi que des bâtiments destinés aux pèlerins, leur permettant ainsi de se reposer ou de se restaurer. Cependant, ce type d'infrastructure peut être invisible sur le terrain, tout simplement à cause des matériaux qui peuvent être utilisés, donc des matériaux périssables comme le bois. Mais dans les grands sanctuaires donc panhelléniques, c'est-à-dire des sanctuaires qui étaient fréquentés par l'ensemble du monde grec, donc les sanctuaires panhelléniques, on en compte un certain nombre. On a le sanctuaire de Delphes, le sanctuaire d'Olympie, le sanctuaire de l'isthme de Corinthe, le sanctuaire de Némée. Donc dans ces grands sanctuaires panhelléniques ou dans les sanctuaires guérisseurs, notamment le sanctuaire d'Épidaure. Donc ce type de structure d'accueil peut prendre des formes de dortoir. Donc on a justement dans le cas d'Épidaure, donc le sanctuaire consacré au fils d'Apollon, Asclépios, dans un bâtiment qu'on appelle donc l'Abaton. C'est donc un dortoir consacré aux pèlerins qui venaient guérir de leur maladie. Pour revenir rapidement au rôle du temple dans les sanctuaires, donc il est vraiment ici à nuancer, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir aujourd'hui. Certes, c'est ce qu'il y a de plus monumental, c'est ce qu'il y a de plus visible, mais c'est pas le plus important, quoi. Donc c'est le bâtiment le mieux restitué aussi par l'archéologie, mais le temple dans la région grecque donc, n'a pour but premier déjà que d'abriter la statue de culte de la divinité. Donc en effet, l'élément principal de ce sanctuaire, c'est l'autel qui, par le biais du sacrifice, va vraiment créer le lien entre le monde du divin et le monde des hommes. Donc rapidement, pour revenir au sacrifice, donc on allait amener donc un animal près de l'autel afin d'être sacrifié. Et c'est quelque chose donc de très ritualisé, ce sacrifice. Donc déjà, dans la sélection de l'animal, l'animal doit vraiment être pur, ne pas comporter de taches ou d'impuretés quelconques. Il est donc amené par des jeunes gens. Et avant d'être immolé, le prêtre jetait quelques gouttes d'eau, souvent sur le dos de la pauvre bête, et si l'animal frissonnait, en quelque sorte, au contact de l'eau, c'est qu'il donnait son accord. Il donnait son accord pour être sacrifié. Et d'un petit sac contenant des graines, le prêtre tirait le couteau du sacrifice, car le meurtre, entre guillemets, de l'animal, l'acte de violence devait être vraiment caché au maximum. Et ensuite, donc, on égorgeait l'animal. Et on le faisait cuire, et on assistait ensuite à un partage. Le partage donc entre la part des hommes et la part des dieux. Donc les hommes consommaient lors d'un banquet rituel la viande, alors que les graisses et les os étaient flambés sur l'autel. En quelque sorte, la fumée devait atteindre l'Olympe et nourrir les dieux. Donc ça, c'est ce partage nous est connu déjà dès la théogonie d'Hésiode. Je pense ici au célèbre épisode où Prométhée va se jouer de Zeus. Donc voici l'origine en quelque sorte de ce rituel vraiment majeur dans la religion et dans le culte grec. Donc dès le moment où la cité se met en place, donc le rituel du sacrifice y est présent tel qu'il est connu donc pour l'époque classique. Hein, le sacrifice, en plus d'être un rite religieux primordial dans la religion grecque, tient aussi, je le répète encore une fois, un rôle fédérateur pour la cité, puisque l'ensemble des citoyens vont former ce qu'on appelle la pompée, c'est-à-dire le cortège sacrificiel. Donc aucun citoyen ne va manquer à cette fête, et surtout au banquet qui en suit. On aura bien évidemment un partage en fonction de sa place, de son statut au sein de la cité, une place à avoir. Donc c'est vraiment un moment fédérateur. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est le sacrifice, comme la religion, vont être vraiment fédérateurs et vont vraiment créer l'appartenance de l'individu à la communauté de la cité. Donc d'un point de vue spatial, le sanctuaire se détache vraiment du monde profane, donc à la fois grâce au Téménos et au Péribole, donc le mur d'enceinte qui va délimiter le Téménos, le monde des hommes, le monde du sacré. Et ainsi, à l'intérieur de cet espace consacré à la divinité, les lois sacrées vont être appliquées. La structure interne du sanctuaire varie en fonction de la nature de celui-ci, mais la présence de fontaines montre l'importance de l'eau dans les rites, notamment de purification menée par les prêtres grecs. L'étude du sanctuaire grec et ce qu'on peut en dire donc, ne se limite donc pas au temple de la divinité, mais à la compréhension vraiment de la globalité du sanctuaire. Comment est-il aménagé? Son fonctionnement, l'observation de l'ensemble du sanctuaire, c'est-à-dire aussi bien l'architecture que le mobilier votif, donc les ex-voto, qu'est-ce qu'on va offrir à la divinité? Pourquoi est-ce qu'on y vient? Ça nous permet aussi d'avoir une vision globale et de comprendre à la fois l'importance du sanctuaire, sa taille, sa richesse, et surtout le nombre de pèlerins qu'il pouvait accueillir. Ainsi s'achève notre émission qui était consacrée donc à la religion grecque et plus précisément à l'importance du sanctuaire dans le monde de la cité. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes sur le site de Radio Grand Ciel. Nous retrouvons donc le mois prochain afin de découvrir un autre épisode, une autre étape, un autre moment de cette histoire grecque passionnante. Au revoir à tous. Ligudelo dos braimon aio.